Place rénovée. Le monastier sur Gazeille, parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Fin septembre, 11h30, 950 mètres d'altitude, beau temps, 20 degrés. Un large tour à pied du bourg permet de saisir que manifestement, les marcheurs sur les traces de Robert Louis Stevenson et de son âne passent par les rues basses qui proposent restauration et commerce, rue Langlade puis Saint-Pierre, alors que les monuments, l'abbatiale, le château, l'église, mais aussi la vie administrative avec la mairie, la bibliothèque, l'office du tourisme, etc., eux sont surélevés entre la place du couvent et celle de l'abbatiale. On peut donc très bien passer par le monastier sans les remarquer ou sans s'y arrêter, sans y monter, qui sont toutes des activités impliquant une forme d'attitude de visite ou de découverte, même minimale. Ce tour du bourg nous décide à nous poster place du couvent, qui a été rénovée intégralement en 2020, c'est-à-dire entièrement minéralisée, comme le décrit parfaitement une habitante.
Avant, il y avait des arbres, ce qu'il y a moins maintenant. C'était goudronné, c'était surtout un parking. Il y avait une rangée d'arbres et puis il n'y avait pas d'arche. Elle avait été enlevée. C'est une ancienne arche qui a été enlevée, mais ils l'ont refaite il y a 2 ans quand ils ont refait la place. Ils l'ont refaite telle qu'elle pouvait être. Peut-être que vous ne vous êtes pas dit qu'elle n'avait que 2 ans, cette arche. Il y a des gens qui disent que c'est trop minéral. Avant, c'était des tilleuls, 2 rangées, de 4 ou une rangée de 3 tilleuls, je ne sais plus. C'est très ensoleillé. C'est quand même bien d'enlever les voitures. Ils ont replanté des arbres. Il n'y avait pas la fontaine qui est là. Là, il y avait quelques arbres qui étaient cassés. Là, il y en avait plein aussi. Mais ils étaient morts. Beaucoup de gens étaient tristes, mais bon, c'est pour en remettre. Ils avaient envie de laisser un espace vide, là où on fait le marché des producteurs, un son et lumière, qui est projeté sur la façade. C'est plus simple quand il n'y a pas d'arbres. Voici une heure de l'histoire naturelle de la place du couvent, entre 14h10 et 15h10, par un beau et chaud mardi de septembre, à travers les allées et venues et les activités des passants considérables, qui vont la peupler depuis un de ses bancs. Deux différents couples d'âge moyen, quadra quinca, y sont. L'un se signale en se photographiant devant la grande croix, qui est la statue centrale de cette place, puis devant le bâtiment de l'abbatiale, sous l'arche. Des touristes, sans doute. L'autre couple est plutôt en mode de traversée de l'espace avec une séparation et l'échange d'un baiser à un endroit précis sous l'arche, où l'un des deux travaille sans doute. Un homme rejoint son vélo électrique accroché à un arbre côté église. Il met du temps à le décrocher et à quitter la place. Le cycliste finit par s'en aller. Une voiture immatriculée 43, la Haute-Loire, département Haute-du-Bourg, fait le tour de la place depuis le bas. Il est 14h23.
Une dame arrive du haut de la place en habit de marcheuse. Elle a les mains dans les poches et regarde en l'air. Les yeux comme la tête sont fureteurs. Elle traverse la place en faisant le tour de la statue, puis la quitte par le bas. Elle adopte une posture de découverte, mais réalise cette découverte en raccourci. Elle se montre attentive, mais passe assez rapidement. Une autre voiture, 43, passe lentement de bas en haut, 14h29. La passagère dévisage les lieux. Le couple assez âgé a trouvé rapidement à se garer, puisqu'il réapparaît à pied depuis le haut, lit les critos de rénovation, sans doute des habitants du département pas repassés depuis 2 ans, puis le couple se dirige vers l'office du tourisme sous les arches qui vient tout juste d'ouvrir. Comme s'ils étaient habitués à l'ancienne place et découvraient la nouvelle.
Un homme d'environ 55 ans sort du 5 de la place du couvent et charge son Logan, puis quitte la place. Il est égaré sur une place où seul un riverain peut considérer qu'il s'agit d'une place. À cheval sur le trottoir et la voie, presque contre une fontaine. Un homme est arrivé dans notre dos, depuis le bas, a pris une photo, puis est reparti, comme une cérémonie, un respect minimal. Une jeune femme arrive du haut de la place, tenue de travail, pour un bureau, pas pour un chantier. Elle est au téléphone, longe la route d'un pas assuré. 14h35, une voiture immatriculée 76 se gare devant le 19. Alors qu'elle semble obstruer un garage, les 3 occupants sortent, vident le coffre, puis entrent au 17. Un homme et 2 femmes septuagénaires. L'homme sort du coffre une table de chevet.
Les arbres qui ont remplacé les anciens sont encore bien petits. On remarque du crottin de cheval déposé à leurs pieds. Un crottin riche en potassium et en azote et montant fortement en température. Précisément le soin approprié pour hâter leur croissance. Un homme âgé arrive seul, marche tranquillement, depuis le haut, sous l'arche, et disparaît de l'autre côté. Il connaît ce passage qui permet de sortir côté château et musée. Une femme de 70 ans environ récupère son sac à dos au garage, manifestement ouvert du 5, puis veut entrer au gîte du 7 en composant le code pour entrer et donc en scrutant son téléphone pour cela. Elle rate deux fois, s'agace, ne sait pas si c'est parce qu'elle ne pousse pas assez fort la vieille porte, mais réussit à la troisième tentative. Ouf, soulagement. 14h40, une nuée passe dans le ciel, déjà une demi-heure de la vie de cette place. Comme sur un faux rythme. Elle n'est pas hyperactive, mais il s'y passe tout le temps quelque chose. Il suffit de faire ce constat pour que 10 minutes se passent sans le moindre micro-événement. À part le retour des cloches à 45, ce qui signifie qu'elle sonne tous les quarts d'heure. Ce calme tombe bien. Parler de rythme nous replonge dans le beau texte de Johann Stavo de Bauge sur l'allure du nouveau venu.
Il y a en effet une physionomie propre au mouvement de quiconque se trouve dans la situation d'un nouveau venu. Soit celui qui doit prendre part à un environnement qui a été apprêté par d'autres que lui et qui a pris forme avant son arrivée. Le nouveau venu va d'un rythme contrarié, oscillant entre l'hésitation craintive et l'empressement fébrile. Ses premiers pas sont affectés d'un retard perceptible. Son visage montre un figement pensif et ses mouvements semblent entravés par une prudence circonspecte, car il se caractérise par l'hésitation. Il lui fait d'abord défaut un savoir sur les choses de la maison, qui lui présente une face d'autant plus intimidante qu'elles n'ont pas l'aspect rassurant d'objets standards, aux qualités garanties. Dans son abord des choses, ses gestes le distinguent des anciens occupants. À la différence de l'arrivant, eux savent y faire. Ils saisissent les objets avec assurance et utilisent les équipements aisément, sans avoir à s'enquérir de leur fonctionnement. Mais tel n'est pas le cas du nouveau venu. Affecté par le délai d'une réflexion et cherchant à s'ajuster à un environnement inédit, qu'il doit d'abord parcourir dans cette double distance du regard exploratoire et de la circonspection inquiète, ses mouvements sont tout à la fois heurtés, prudents, mesurés et retenus.
14h55. Une femme arrive par le bas et entre au 5, dont la porte est ouverte. Elle donne sur un bloc de boîte aux lettres. La maisonnette en contreplaqué sur un côté de la place, typique d'une vie de chantier, on pensait d'abord à un WC jusqu'à ce qu'on voit une fenêtre à l'arrière. La maisonnette est fermée. Un autocollant sous la fenêtre mobilise l'œil. Rêve général. La jeune femme revient. Il est 59. Depuis le bas, même chemin, mais inverse, par la route vers le haut, mais sans être au téléphone cette fois. Dans sa main droite, elle tient son téléphone et un paquet de gâteaux de boulangerie, plus un sac à main à l'épaule et main gauche, une sacoche contenant sans guère de doute un ordinateur portable. 14h07. Quatre femmes, la quarantaine, arrivent du bas, deux avec des cartons, dont une, un carton de 6 bouteilles de vin rouge. Elles saluent un chat qui traîne au soleil au niveau des escaliers bas, puis longent le parapet, en râlant gentiment après leur hôte, guide, ami. Elle nous aiguille pas. Elle nous dit pas « c'est une fontaine, elle vient d'où l'eau ?» Elles sont sonores et peuvent l'être. La place est à elles à ce moment. Enfin, la place, elles ne l'ont pas encore vue, à peine devinée. À moins qu'elle soit déjà passée plus tôt, elle repère les jours d'ouverture de la crêperie. Le patron, qui habite la maison d'après, finit par les entendre, les rejoint dehors, embrasse leur guide, qui a sans doute sonné, puis les fait entrer dans la crêperie.
Un couple âgé longe l'arche, lui avec des béquilles. 13. Un autre couple arrive du bas. Des marcheurs. Lui plutôt la soixantaine. Elle, une quinzaine d'années de moins. Elle se met sur la pointe des pieds pour découvrir la place par-dessus le parapet, et elle commence à s'y rendre. Lui reste sous le parapet à lire le monument aux morts, puis se dirige à droite sur le parvis de l'église. L'homme à sa femme. « Ça ?» désignant le bâtiment au fond de la place. « Ça, c'est l'hôtel de ville ?» Une voiture 63 passe. Sa femme ressort de la place après un petit tour, lui se tient sur les marches. Elle fait une photo avec son téléphone en se retournant vers la place, puis elle longe par le bas, le long du parvis. Lui reste au niveau du monument aux morts. Il finit par la suivre et ils continuent ensemble à longer vers le côté. 18. Une femme arrive du haut par la route et entre au 5. 20. La femme qui avait du mal avec le digicode ressort du 7 sans sac, avec des habits différents. Elle se dirige vers le haut, lit l'écriteau de rénovation de la place, puis en sort.
L'heure avec la place est terminée. Nous entrons dans l'église et y retrouvons notre couple de marcheurs, lui s'étant découvert la tête de sa casquette. Ils lisent des tableaux en silence. Nous continuons à remonter vers le château, en dépassant des boulistes qui jouent dans la cour du musée des croyances populaires. Sur l'allée juste au-dessus, un couple âgé est posté devant sa maison, au soleil, dans des chaises, à indiquer la route et les possibilités de se garer à une voiture de touriste. Puis, à une autre voiture ayant l'affiche du Festival des Cuivres du Monastier sur la plage arrière. En contrebas, des ruches sont empilées les unes sur les autres tout autour d'une porte. Elles sont réalisées avec des matériaux de récupération qui s'associent aux murs, les alvéoles faisant liant. Nous retournons sur la place du couvent.
L'homme au vélo électrique, dont il semblait de loin qu'il avait du mal à retirer son antivol, est de nouveau là, accompagné par un autre homme de son âge, une petite soixantaine. Ils inspectent littéralement. Ils passent dans les coins et les recoins de la place, lentement, à l'affût, presque pliés en deux vers le sol. Ce n'est pas l'allure du touriste qui découvre, ni celle de l'habitué qui traverse, plutôt celle de l'enquêteur. Intrigués, nous les abordons. Ils n'ont pas de mal à composer le code de leur cadenas de vélo. Ils ne sont pas non plus à la recherche du trésor des cathares. Ce sont des éthologues naturalistes amateurs, mais bien éclairés. Et ce qu'ils observent, ce sont les lézards et autres geckos de la place, qui ont connu tant le bitume et les arbres de l'ancienne que la minéralité désertique de celle-ci, et qui doivent s'adapter à tous ces changements. Ils observent en fait des formes de vie alternatives, aptes à vivre la place minérale. Ils ont vite acquis les connaissances minimales à propos de ces squamates, qui les ont convaincus sur leurs hypothèses sauvages. Les lézards, émetteurs de sifflements et de claquements, eux disent qu'ils nous appellent pour nous emmener avec eux, ne transpirent pas sous le soleil caniculaire de cet été, devenu irrespirable sur cette place minérale, puisqu'ils ne transpirent pas tout court, n'ayant pas de pores sur la peau. Les arbrins du désert ou verts des forêts, leur couleur, liée à leur milieu de vie, fait partie de leur camouflage au long cours, dans la nature, afin d'échapper à leurs prédateurs.
Les deux naturalistes font aussi leurs les préceptes édictés par le monsieur Palomar d'Italo Calvino, à commencer par le fait que le gecko représente en revanche la concentration immobile et l'aspect caché, le revers de ce qui s'offre à la vue, dans le chapitre « Le ventre du gecko ». Ils en concluent qu'il faut redoubler d'attention pour dénicher, parvenir à observer des geckos et saisir leurs secrets. Mais aussi, ce passage à propos d'un iguane. Sur le museau à squame verte, l'œil s'ouvre et se ferme, et c'est de cet œil évolué, doué de regard, d'attention, de tristesse, qui donne l'idée qu'un autre être est caché sous ces dehors de dragon. Un animal plus proche de ceux qui nous sont familiers. Une présence vivante moins éloignée de nous qu'il ne semble. Dans le chapitre « L'ordre des squamates ». Pour eux, les appels sifflés et claqués ne seraient rien ou presque s'il n'y avait pas ce regard, cette tristesse. Comme si les lézards savaient que nous courions à la catastrophe et qu'ils avaient décidé de nous aider. Depuis, les deux acolytes suivent tous les lézards de la place à la trace, observent leurs moindres gestes et préparent un livre. Ils veulent que ce soit un inventaire contenant scrupuleusement toutes leurs observations et les hypothèses qu'ils en tirent sur ce qu'ils appellent les possibilités de vivre dans les ruines, d'un urbanisme minéral, paraphrasant le titre d'un livre récent d'anthropologie qui les a marqués.
Nous retrouvons l'habitante qui décrivait la place tout à l'heure. Elle nous fait remarquer que la rénovation n'a pas éliminé la pente de la place, certes, mais que même les bancs ne sont pas à niveau. Est-ce aussi pour cela que les boulistes préfèrent la cour du musée des croyances populaires et son nom naturel? Pour autant, d'autres pratiques se sont saisies de cette qualité particulière, car elles pouvaient s'apparier à leur performance. Venus du parc naturel régional des Bauges, et passés par celui des baronnies provençales et du Vercors, le chorégraphe Franck Micheletti et l'anthropologue Chiara Piaille y trouvent matière à quelques expérimentations de posture corporelle. La pente douce permet des jeux subtils à partir du poids du corps de l'autre. Chiara s'appuie sur Franck, qui s'appuie sur le banc. Il semble ici en quête d'une légèreté instinctive. Les clubs de yoga et de danse locaux prendront-ils le relais?
Le premier endroit, enfin l'endroit naturel, l'endroit culturel de notre activité, c'est un plateau. une scène, un plateau. Et là, en fait, en sortant de la scène et du plateau, en déboîtant notre expérience, hein, en fait, cette scène est dans une boîte, normalement. Là, on n'est plus dans une boîte, on est dans un relief. Et des centaines et des centaines de plateaux qui ne sont pas nécessairement équilibrés. Et parfois, l'équilibre n'est pas à l'endroit où on l'imagine. En fait, l'équilibre, c'est dynamique. Il ne faut pas avoir peur du relief et des frictions. Je pense que ces chemins redynamisent nos pas. Enfin, et pas nos sens.
Ça me fait rire ce que tu dis, parce que ça me fait penser à tous ces théâtres anciens à l'italienne qui ont une pente, tu sais, oui. Les plateaux qui sont un petit peu pentus pour qu'on voit bien les acteurs qui sont sur scène. Et c'est des vraies questions problématiques pour la danse, parce que souvent les programmateurs nous disent « Ah là là, mais je ne peux pas programmer de danse sur ce plateau parce que la scène est trop en pente ». Et souvent, on leur dit, c'est incroyable d'entendre cette phrase, parce que nous, on cherche la pente en ce moment, en fait. On s'est appliqué à vouloir absolument jouer, danser sur un plat absolu. Et nous, dans nos projets actuellement, on a envie de pente, quoi. Enfin, on a envie de regarder aussi autrement, enfin, que ce soit dans la nature, mais aussi dans les espaces urbains. On a envie de voir les corps, d'entendre les sons, écouter les voix, par derrière, par le côté, par en haut. Enfin, on est aussi en train de déboîter ça, quoi. Et du coup, ce que tu dis par rapport à cette scène à plusieurs équilibres, ça me fait rire, quoi.
Nous quittons la place, les yeux pleins de leurs gestes gracieux, mais aussi de ceux des lézards. Lents, immobiles, prêts à bondir sur une proie, à se jeter d'un interstice à l'autre, d'une anfractuosité à peine perceptible mais ombragée à une autre. Nous nous disons quand même qu'il nous faudrait devenir lilliputiens. Il n'en reste pas moins qu'en quittant le monastier, nous complétons presque inconsciemment l'histoire naturelle de la place. Nos observations pendant une heure et celles des lézards, et imaginons un tout encore nébuleux. Ces phrases du philosophe Étienne Souriau sembleraient presque y apporter un peu de clarté. Chez l'animal sauvage, il suffit d'observer les allures, termes techniques répondant à des faits précis de rythme et de temps. On ne peut douter que, tout automatique, que soient dans leurs détails les réflexes qui les assurent, leur ensemble est sous la surveillance d'une sensibilité. L'oiseau, bon voilier, buse ou goéland, nous en donne l'évidente démonstration quand on le voit sur une colonne d'air ascendante ou sur l'appui du vent, chercher le juste rythme des cercles qu'il décrit pour monter, puis, ce rythme trouvé, s'y confier avec aisance. De même, le déplacement du singe à travers la forêt, d'arbre en arbre, serait impraticable tel qu'il a lieu s'il n'avait pas, chez lui, une perpétuelle modulation des rythmes sans cesse adaptée, dans leur figure et leur tempo, aux circonstances diverses, avec une précise recherche formelle de l'arabesque qui permet le mieux l'aisance gracieuse dans l'exécution. Bref, s'il n'y avait pas intervention, dans le mouvement lui-même, d'une certaine sensibilité esthétique. Citation extraite du Sens artistique des animaux.
Homme venu du bas, prend une photo et repart, condensé de rites. Qui mieux qu'un gecko pour lézarder au soleil, milieu maîtrisé.